Ce récit du sacrifice d'Isaac en Genèse 22 est certainement l'un des plus célèbres de l'Ancien Testament. Il est même bien connu des musulmans puisqu'il se trouve aussi dans le Coran. Sauf que dans ce cas, je crois qu'eux, ils pensent que ce n'est pas Isaac mais Ismaël qui aurait été sacrifié par Abraham puisqu'ils se considèrent comme les descendants de celui-là. Alors aux écoles bibliques, d'habitude, dans les catéchismes pour enfants, on explique que Dieu voulait savoir si la foi d'Abraham était assez grande. Donc Abraham aurait prouvé ainsi qu'il était prêt à obéir à Dieu, même au prix de ce qu'il avait le plus cher. Et en effet, qu'est-ce qu'il y a de plus cher pour des parents que leurs enfants ? Eh bien, certainement rien. Alors certainement que cette lecture n'est pas absurde, parce que vous savez même qu'il y a certains théologiens qui ont dit pour nous, ce qui prend la place de Dieu, chacun a un Dieu en quelque sorte dans sa vie, et que pour nous, ce qui est notre Dieu, c'est la préoccupation qui est au-dessus de tout, c'est-à-dire ce pourquoi nous serions même prêts à donner notre propre vie. Alors en effet, certainement que Dieu doit être au-dessus de toute préoccupation, et de ce côté-là, Abraham, d'une façon un peu dramatique, a prouvé qu'il n'était pas idolâtre, mais qu'il croyait bien en Dieu. Mais néanmoins, cette belle interprétation pose quand même pas mal de problèmes. Tout d'abord, il y a le problème du fils. Quand on voit les choses vues du côté d'Isaac, l'affaire est nettement moins enthousiasmante. En effet, de voir son propre père prêt à l'égorger, c'est quand même épouvantable, c'est effrayant. Mais cette histoire, vue de ce côté-là, est quand même vraiment inacceptable. Et comment pourrait-on même imaginer que Dieu aurait pu demander à Abraham une chose aussi insupportable que le meurtre de son propre fils? Que effectivement on ne fasse pas de la vie de ses enfants le seul sens à sa vie, c'est normal. Oui, Dieu est au-dessus, et même si mes enfants meurent, je garderai confiance dans la vie et en Dieu, parce que je n'idolâtrise pas non plus mes relations familiales. Mais je ne peux pas imaginer ni concevoir un Dieu qui pourrait souhaiter, vouloir la mort de mon fils et encore moins de ma propre main. Ensuite, deuxième point que je trouve quand même extrêmement curieux dans cette histoire, c'est cette histoire d'épreuve. Déjà, je ne crois pas que Dieu puisse demander une chose pareille, mais je ne crois pas non plus que Dieu s'amuse à nous tester. Je n'y crois pas. On voit là, en fait, comme si Dieu avait voulu faire passer une sorte d'examen d'obéissance à Abraham. Mais est-ce que vraiment vous croyez que Dieu s'amuse à cela? Surtout au prix de tels traumatismes dans une existence. Je crois qu'au contraire, Dieu connaît les cœurs et que Dieu connaît très bien la fidélité et la foi de chacun. Et Dieu n'a pas besoin de s'amuser d'une façon cruelle pour essayer de connaître le cœur de l'homme. Quant à Abraham, qu'est-ce qu'il a pensé, lui, dans cette histoire? Qu'est-ce qu'il a pensé? Bon, il avait confiance en Dieu, certainement. Or, cet enfant lui avait été donné par Dieu lui-même. Alors, pourquoi est-ce que Dieu voudrait-il le reprendre? C'est absurde, en un sens. Alors, qu'est-ce que Abraham a pu penser quand Dieu lui a demandé ça? Est-ce que Abraham croyait dans un Dieu absurde? Est-ce que Abraham vraiment pensait que Dieu pouvait demander n'importe quoi? Pouvait donner une chose pour accomplir sa promesse et puis le lendemain lui dire qu'on balaye tout, on fait autre chose, on recommence, on arrête, on annule ce qui a été fait? Et si oui, est-ce que la foi d'Abraham, dans ce cas-là, est un exemple? En effet, qu'est-ce que pensait exactement Abraham? Et quelle est son attitude? Est-ce qu'elle est justifiable dans toute cette histoire? Quand il ment à tout le monde, quand il dit à ses serviteurs « Je monte là-haut avec l'enfant, je redescendrai avec lui tout à l'heure », il le croyait? Il savait qu'il allait tuer son fils. Alors, en quoi est-ce que Abraham croyait? Et quand il dit à Isaac « Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste », il y croyait vraiment? Et est-ce qu'on peut faire comme Abraham et faire d'Abraham le modèle des croyants et dire qu'on peut tromper, mentir, dissimuler et aller égorger son propre fils? J'avoue que je ne crois pas. Alors certains disent, oui, mais Abraham avait tellement foi en Dieu qu'il était sûr que Dieu le ressusciterait. et que donc il assassinerait son fils sur l'autel et que Dieu forcément le ressusciterait. C'est ce qu'ont dit certains théologiens traditionnels pour essayer de sauver Abraham et de garder en lui l'image du croyant parfait, mais je vous avoue que je n'y crois pas trop, d'autant plus que les exemples de résurrection dans l'Ancien Testament sont plutôt rares, voire inexistants. Alors par conséquent, qu'en dire ? Eh bien, certains théologiens juifs dans la tradition la plus ancienne disent que, en fait, l'épreuve n'est pas du tout faite pour faire découvrir à Dieu quelque chose qu'il ne connaîtrait pas, parce que Dieu, évidemment, connaît tout, mais que l'épreuve, elle est plutôt faite pour faire découvrir à l'homme quelque chose qu'il ignorait. Et j'avoue que cette piste me séduit beaucoup. Cette épreuve ne serait pas donc pour apprendre à Abraham, à Dieu, si Abraham avait une foi juste ou pas, mais ce serait une épreuve pour faire découvrir à Abraham quelque chose qu'Abraham ignorait. Ce serait donc quelque chose pour faire progresser Abraham. Et cette approche me semble plus positive, parce que alors on peut se dire, finalement, qu'est-ce que Abraham a découvert dans cette histoire ? Ou encore, qu'est-ce qu'il ignorait ? Ou alors, en quoi est-ce que Abraham a pu progresser dans cette histoire ? Qu'est-ce qu'il y avait au départ en lui qu'il ignorait ou qui était faux concernant Dieu et il aurait découvert enfin quelque chose de plus vrai concernant Dieu, concernant lui-même, concernant son propre fils, concernant la façon avec laquelle lui, Abraham, pouvait accomplir la volonté de Dieu et de tout cela. Et du coup, si on part sur cette piste, alors Abraham n'est plus l'exemple extraordinaire de la foi et de la juste attitude du début à la fin, mais il est plutôt l'exemple de celui qui, comme nous, se trompe, ignore tout, commet des erreurs, mais arrive à découvrir, effectivement, en fin de compte, quelque chose d'essentiel. Alors oui, c'est ce que je crois, effectivement. C'est que Abraham, en particulier au départ, avait une idée fausse. Et je crois que Abraham, au départ, s'était trompé sur Dieu lui-même. Abraham a cru que Dieu lui demandait la mort de son fils. Mais quelle idiotie ! Je suis persuadé que Dieu n'a jamais demandé cette chose-là. Dieu a dit à Abraham, « Consacre-moi ton fils. » Après tout, pourquoi pas ? C'est une bonne idée. Que cet enfant ne soit pas une sorte de petit païen grandissant comme la mauvaise herbe des champs, mais consacre-le à moi, fais-le monter vers moi, fais-lui découvrir une dimension spirituelle, élève-le jusqu'à moi. Et Abraham se dit, moi, en tant que bon petit païen de base, je sais comment on consacre les gens à Dieu, on les tue, on les sacrifie, on les immole. Alors vous me direz, oui, mais dans le texte, Dieu dit bien, offre-le en holocauste. Mais là aussi, il y a justement une incertitude sur le mot, parce que holocauste, en hébreu, le hola, ça veut dire un pourmonter, étymologiquement, un pourmonter. Et le mot le hola peut être traduit par holocauste, parce que, effectivement, un holocauste était un sacrifice que l'on brûlait entièrement, donc tout s'élevait en fumée à Dieu. Mais il y a d'autres passages dans la Bible où ce même mot le hola, on le traduit par un escalier, quelque chose qui sert à monter quelque part. Et donc, ma certitude, et ce n'est pas que la mienne, c'est dit partout dans tous les bons commentaires juifs et chrétiens aujourd'hui, c'est que Dieu n'a pas du tout demandé à Abraham de l'offrir en holocauste. Il lui a dit, offre-le-moi pour monter, c'est-à-dire fais-le monter à moi, élève-le à moi. C'est ça qu'il lui a dit. Et Abraham, il comprend, pour faire monter un enfant à Dieu, il faut le sacrifier et le tuer. Alors en effet, on sait que du temps d'Abraham, la pratique des sacrifices humains était chose courante. En particulier, on offrait au dieu Moloch, on devait tuer pour ceux qui croyaient, les païens qui croyaient dans le dieu Moloch, un dieu sanguinaire. On pensait que pour édifier une maison, pour édifier une famille, il fallait tuer le premier garçon né. Et quand on construisait une maison, on commençait par tuer le premier garçon né et on l'enfermait dans la pierre angulaire de la maison et on pensait que ça permettait à la maison de durer. Donc Abraham n'a rien inventé. Je dirais Abraham connaissait cette pratique païenne et finalement il agit selon son habitude païenne. Et puis finalement c'est Dieu qui va être obligé de lui dire en fin de compte « Mais arrête imbécile, C'est pas du tout ce que je te demande. Et Dieu est ce coup-ci obligé d'intervenir manu militari pour retenir le bras d'Abraham qui était en train de commettre la pire des bourdes de son existence. Et en effet, je crois que ça, c'est assez important. Parce que, vous me direz, aujourd'hui, nous ne sommes pas menacés par le fait de faire des sacrifices humains. Donc, ce texte-là ne nous concernerait plus. Mais en fait, si, il nous concerne quand même. Parce que je crois qu'effectivement, cela nous apprend que quand on veut consacrer quelque chose à Dieu, ou si l'on veut soi-même se consacrer à Dieu, il n'est pas nécessaire pour cela de s'empêcher de vivre. Et qu'il faut au contraire plutôt mettre sa propre vie au service de quelque chose de plus grand. Et que d'une certaine manière, ce texte nous montre le rejet de toute idée de sacrifice. Le sacrifice en soi ne sert à rien. Et ce n'est pas parce qu'on sacrifie quelque chose que l'on fait bien. Peut-être que pour faire du bien, il faudra sacrifier quelque chose. Mais ce n'est pas dans l'autre sens. Le sacrifice pur et gratuit n'a aucune valeur, aucun sens et ne plaît en rien à Dieu. Et je pense que c'est déjà un des sens de ce texte. Aucune utilité. Alors oui, effectivement, Dieu demande à Abraham d'élever son fils, de le faire monter. Mais aller à Dieu, ce n'est pas nécessairement en mourant. Et de ce côté-là, ça me fait penser, vous savez, à ce fou dans Tintin et le Lotus Bleu. Il y a un fou qui se promène avec un grand sabre et dès qu'il voit quelqu'un, il lui dit « Je vais te faire trouver la voie. Je vais te faire découvrir la voie. » Et puis il a un grand sabre et tout ce qu'il veut, c'est couper la tête des gens en disant « Je vais vous couper la tête pour que vous trouviez, pour que vous puissiez trouver la voie. » Eh bien, on peut dire que Abraham était un peu comme ça. Et que malheureusement, je crains que beaucoup de chrétiens, finalement, soient aujourd'hui un peu comme ça. Et ils pensent que pour s'élever à Dieu, il faut se couper la tête. Pour s'élever à Dieu, il faut renoncer à tout. Il faut renoncer au plaisir, renoncer à vivre, renoncer aux joies, renoncer à tout. Ne plus vivre, ne pas se marier, ne pas faire d'enfants, ne pas avoir de joie, ne pas avoir de biens, ne rien posséder, aucun plaisir. Et à ce moment-là, on va s'élever à Dieu, qui sacrifie le corps et lève l'âme. Eh bien ça, on est dans la folie de ce Didi du Lotus Bleu. Je vais te couper la tête et tu trouveras la voie. Mais justement, le Dieu de la révélation n'est pas ce Dieu-là. Il ne nous demande pas de mourir, de cesser de vivre sur terre pour accomplir la promesse de Dieu. Mais c'est sur cette terre que nous pouvons accomplir la promesse de Dieu. Alors vous me direz que cette histoire peut être vue, oui, effectivement, comme une leçon d'éducation concernant le bon rapport avec ses enfants, mais pas seulement, parce que même si l'on n'a pas d'enfants, il y a le psaume 131, par exemple, qui dit « Mon âme est en moi comme un petit enfant ». Et je pense qu'en fait, ce que représente l'enfant, là, dans la vie d'Abraham, c'est ce qu'il y a de plus précieux en lui, la meilleure partie de lui-même, ce qui représente l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et ainsi, nous devons peut-être comprendre comme cela, quand on parle d'enfant, de savoir comment est-ce que nous envisageons d'élever à Dieu la meilleure partie de nous-mêmes, d'élever à Dieu ce qu'il y a au fond de nous-mêmes pour le consacrer à Dieu, cette partie de notre vie qui est la partie de l'éternité et de la fécondité. Alors, les erreurs d'Abraham, je vous les ai déjà un petit peu évoquées. La première, ce serait donc, je vous l'ai dit, de croire qu'il faudrait renoncer à toute vie pour accéder à Dieu, et là, Dieu lui montre que c'est le contraire. La deuxième erreur, c'est qu'il avance dans cette histoire comme un autiste, c'est-à-dire qu'il ne se pose aucune question. Il croit entendre que Dieu lui demande la mort de son fils, alors il fonce, il y va, et il va couper la tête de son fils. Et en fait, je pense que là, il a eu tort. Parce que je pense que Dieu nous parle dans notre vie, mais que parfois on peut peut-être mal comprendre ce que Dieu nous demande. Et ainsi, je pense qu'Abraham aurait dû se poser plus de questions. Il est un petit peu intégriste, je dirais. Abraham pense qu'il faut absolument cesser de vivre, renoncer à vivre pour être fidèle à Dieu, qu'il faut renoncer à tout. Et il avance sans se poser de questions. Certes, Dieu parle, mais effectivement, parfois, on peut mal comprendre. Et donc, il ne faut pas être intégriste, je dirais, en confondant la parole de Dieu avec la propre sienne. Il ne faut pas prendre n'importe quoi pour parole de Dieu. Et ce qu'aurait dû faire Abraham, c'est d'en discuter, d'en parler avec Isaac, peut-être d'abord, hein, d'en parler avec ses serviteurs, avec sa femme, avec d'autres. Donc oui, il faut parler, il faut discuter. Il aurait dû parler avec l'enfant dans son chemin. Là, il ne l'appelle jamais par son nom, il ne lui dit rien, si ce n'est des mensonges. Et ça, c'est vraiment très mauvais. Mais il y a quand même quelque chose de bon chez Abraham. C'est que, in extremis, il va accepter de changer sa vision des choses en sacrifiant le bélier. Et ça, c'est bien. Et donc, finalement, Abraham va changer d'une certaine façon. Il va changer. Et ça, c'est bon peut-être, de rester à l'écoute de Dieu, d'accepter de se remettre en cause dans ses principes et dans ses certitudes. Et Abraham, finalement, va se convertir très profondément. Et je dirais que la plus grande qualité d'Abraham dans ce texte, c'est pas le moment où il y va bille en tête, bêtement, sans penser, c'est le moment où il accepte de retenir son bras et de sacrifier le bélier à la place de son fils. Parce que la vie, ce n'est pas d'appliquer des certitudes. Quand on applique des certitudes et des principes, on conduit tout le monde à la mort. On a le droit de se tromper, mais on a le devoir d'essayer d'apprendre à changer. Et Abraham, en effet, ce qu'il faisait aussi avec son intégrisme du début, intégrisme que parfois on impose aux autres, à ses enfants, ou parfois que l'on impose à soi-même, c'est d'imposer les choses. Il est là au début, on nous dit qu'il commence par sangler son âne. On sait que l'âne dans la Bible représente la nature physique de l'être. Donc il est là, il ficelle sa nature physique et sa dimension humaine et terrestre. Il veut la ligoter. Ensuite, il prend le paquet de bois et il le charge sur son fils. Que nous ne faisons pas ça trop souvent, d'aller charger les autres de fardeaux qu'ils ne sont pas capables de porter et que nous-mêmes, nous ne serions pas capables de porter. Et parfois, ce fils, c'est nous-mêmes, et nous nous chargeons d'exigences, de pureté, de ceci, de cela, de morale, de tout réussir, de tout faire, de tout être bien, toujours bon, toujours juste, et nous sommes écrasés sous le fardeau de ce bois de l'Holocauste que Abraham a voulu mettre sur son fils et qu'il portait lui-même. Et puis ensuite, alors il continue dans cette affaire, et il finit par le ligoter, par le lier, par l'enfermer. Et oui, c'est ça, imposer trop de règles, trop de contraintes, trop d'idéaux élevés, en voulant bien faire, certes, en voulant bien faire, mais alors on devient écrasant, et finalement on immobilise, on tue. Et si Abraham avait tué Isaac, qu'aurait été sa descendance? Eh bien moi je crois qu'il n'y aurait pas eu de descendance. C'est-à-dire que finalement, avec ces histoires d'intégrisme, on finit par empêcher même Dieu d'agir et on finit par empêcher même l'Esprit de pouvoir donner la vie. Parce que Dieu nous demande de bien faire, mais il nous demande aussi d'agir avec intelligence et nuance. Oui, c'est bien de s'imposer des idéaux, mais juste ce qu'il faut, je dirais, ni trop ni trop peu. Ou plutôt, c'est bien d'avoir un idéal élevé, mais il faut avoir des objectifs réalistes et réalisables. Sinon, on est écrasé sous le poids du sacrifice et il n'y a plus de vie. Dieu, en effet, ne nous demande pas d'être des saints au prix de notre propre vie. Ce qu'il nous demande, c'est ce qu'il a demandé au début à Abraham. C'est « va vers le lieu qui est ma montagne » et là, monte. Il faut aller et il faut monter, s'élever. S'élever progressivement, s'élever pas à pas, comme le montagnard qui monte et qui n'espère pas être d'un coup projeté au sommet. C'est comme dans la parabole des talents. À chacun, on demande ce qu'il peut fournir. À celui qui a un talent, lui en demande un autre. Celui qui en a 10, on lui demande 10 autres. Et donc, ce sont des objectifs réalisables. Il n'y a pas d'exigence absolue. Et pour cela, il n'y a pas besoin de ligoter notre vie, pas besoin de sangler notre existence terrestre. Dieu nous offre la liberté, il nous offre l'épanouissement de notre vie dans toute son originalité, dans toute son imperfection même, et dans toute cette richesse, il nous invite à faire route avec notre vie terrestre, et non pas à la tuer, mais à être partenaire avec elle. C'est ça que va faire Abraham, ce qui est extraordinaire. Au début, il voulait tuer Isaac pour faire un sacrifice à Dieu, mauvaise solution, et finalement, c'est avec Isaac qu'ils vont offrir tous les deux ensemble quelque chose à Dieu. Et c'est ça la juste attitude par rapport à notre vie. Non pas de tuer notre existence, mais avec ce corps que nous trimballons, avec cette vie physique qu'est la nôtre, avec nos avantages et nos défauts, nos bonnes choses et nos imperfections, c'est ensemble, en harmonie, en union, de marcher avec cette dimension physique de notre vie et ensemble d'offrir à Dieu ce que nous pouvons lui offrir sans avoir besoin de tuer qui que ce soit. Dieu ne nous demande pas d'être plus rien pour que Dieu soit tout. Il ne nous demande pas de nous anéantir pour laisser toute sa place pour lui. Le but n'est pas de renoncer à vivre, mais de vivre en harmonie avec toutes ces dimensions de son existence. Donc l'erreur d'Abraham, ce n'est pas d'avoir manqué de foi, mais en fait c'est plutôt d'avoir eu une mauvaise foi. D'avoir trop cru en Dieu peut-être, et pas assez dans l'homme. D'avoir pensé que de toute façon, il fallait qu'il s'anéantisse complètement et que Dieu pouvait tout faire et n'importe quoi. Penser que Dieu pouvait agir absurdément, que Dieu trouverait de toute façon une manière de s'en tirer. Et finalement, Dieu l'empêche et il montre que pour réaliser son plan, il a besoin non seulement d'Abraham, mais aussi de la vie physique d'Isaac. Et qu'il doit intervenir pour empêcher Abraham de faire cette bêtise. Alors ça, c'est essentiel. Dieu qui découvre un autre Dieu, Abraham qui découvre, pardon, un autre Dieu, qui est un Dieu, une fois de plus, qui fait route avec lui, un Dieu qui est compagnon avec lui, et qui travaille, qui est coopérateur avec Abraham, et non pas une sorte de Dieu transcendant qui serait au-dessus en faisant n'importe quoi. Alors s'il fallait garder une chose bonne d'Abraham, je dirais que ce qu'il y a peut-être de plus extraordinaire dans ce qu'il a fait, c'est toute sa démarche, mis à part l'interprétation grotesque de cet holocauste. Et toute cette démarche, c'est celle que nous pouvons faire, nous. Et en ce sens, oui, nous pouvons être les enfants d'Abraham. Abraham qui se lève de bon matin. Abraham qui répond quand Dieu l'appelle. Abraham qui se met en marche. Abraham qui fait ce cheminement long. Il met 3 jours avant de lever les yeux et de voir au loin la montagne de Dieu. Et Abraham qui ne reste pas en place. Abraham qui est prêt à beaucoup de choses pour servir Dieu. Et Abraham qui finalement monte sur la montagne, qui n'en reste pas, je dirais, au ras des pâquerettes, mais qui s'élève, qui marche et qui avance. Et finalement, c'est tout cela. Parce qu'en fin de compte, Abraham va faire des choses extraordinaires, parce que toujours il sera en marche et que toujours il restera à l'écoute de Dieu. Et en ce sens, il accomplit sa première vocation quand Dieu lui dit « Va ! Va vers toi, va, avance, allez, en route !» Et Abraham, toute sa vie, aura été un araméen nomade, quelqu'un qui marche, qui avance, qui change, qui se déplace, qui peut faire des fausses routes, mais qui finalement se remet dans les bonnes routes parce qu'il reste à l'écoute de Dieu. Et en ce sens, oui, Abraham, eh bien, notre père à tous, et non pas pour la mort, mais pour la vie. Amen.